10h.
Les gens comme moi, ce sont des gens qui aiment les gens, je pense, qui vont prendre sur eux pour aller rencontrer des gens et leur parler, les faire parler d'eux et essayer de raconter ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu avec le plus d'à propos et d'honnêteté aussi. Et donc, les gens comme moi, ils passent beaucoup de temps probablement à réfléchir à la bonne manière de faire pour que les gens dont on parle et qui nous racontent leur histoire ne se sentent pas trahis ni abîmés.
Bonjour, je suis La Petite Blanc et vous êtes dans Du Poil Sous les Bras. Un Du Poil Sous les Bras enregistré dans la très bonne librairie de Toulouse, Terra Nova. Merci encore aux libraires pour leur accueil. Et vous, auditeurs et auditrices, eh bien, si vous passez à Toulouse, faites un saut au 18 rue Léon Gambetta, vous serez bien reçus. Alors mon invitée du jour n'est pas journaliste, mais elle aussi, comme tout journaliste qui se respecte, s'efforce de ne pas trahir la parole récoltée. D'ailleurs, quel que soit notre métier ou nos liens, on devrait toujours s'efforcer de ne pas trahir la parole des autres. Une parole qu'on nous a confiée, c'est un petit trésor. La preuve, c'est une forme de torture de n'entendre jamais personne, ça rend fou. Alors aujourd'hui, plus que jamais, apprenons à écouter et si besoin à rendre compte, mais sans jamais déformer ni trahir.
Bonjour, je suis Sophie Houdard et je suis anthropologue, chercheur au CNRS, au Centre National de Recherche Scientifique. De ce fait, je suis fonctionnaire et je travaille essentiellement dans la recherche. C'est-à-dire que je fais très peu d'enseignement et que j'ai cette chance de pouvoir consacrer ma vie à des projets de recherche qui, en l'occurrence, portent depuis plus d'une dizaine d'années sur la relation entre nucléaire et territoire.
Bonjour Sophie Houdard, Ohayou gozaimasu, comme je le dirais en japonais, et merci arigato de venir sur toutes les antennes de Du Poil Sous les Bras pour nous rapporter la parole de personnes qui sont loin de nous mais qui nous apprennent beaucoup sur le monde. Avant de démarrer, je me suis dit, tiens, profitons quand même de Sophie pour faire le point sur ce qu'est une anthropologue, parce que je ne suis pas sûre que ce soit si évident pour tout le monde.
Il y a souvent des termes qu'on utilise un peu l'un pour l'autre. On entend ethnologie, c'est-à-dire l'étude des ethnies. Anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Quand on dit anthropologie en France, c'est anthropologie sociale, donc c'est l'étude de l'homme en société, comment les gens font société, comment, et pas l'anthropologie physique. C'est pas le faciès. Des fois, on me dit tu travailles sur les os. Je travaille pas sur les os. Je travaille sur des gens vivants. Et qui grandissent, qui vivent, qui travaillent, qui meurent dans des contextes culturels, sociétaux, particuliers. Et donc en anthropologie, on travaille sur, très souvent, pas sur un pays. Je ne peux pas dire que je travaille sur le Japon, je ne peux pas dire non plus que je travaille sur les Japonais, mais je vais m'intéresser à poser une question, pour mon cas, que j'essaye de faire assez petite en général, et je rencontre un petit nombre de gens, et ce qui est fondamental en anthropologie, c'est la relation qu'on essaye d'avoir, fondée en partie sur l'empathie. Une relation longue qu'on peut établir avec les gens et une relation de confiance. Et donc voilà, c'est ça le métier de l'anthropologue qui donc se charge d'établir un contact avec des gens qui soient de qualité pour que les gens nous racontent ce qu'ils ont envie de nous raconter, de la manière dont ils ont envie de nous raconter. Et puis nous, ensuite, on essaie de le raconter à notre tour.
Quel beau métier que l'anthropologie et quel beau livre que vient d'écrire Sophie Houdard, un livre intitulé « Ce territoire qui comme une pulsation », un livre paru aux éditions des Mondes Affaires en janvier 2026. Et ce livre parle du nucléaire d'une façon que j'ai trouvée originale et touchante. Direction La région de Tohoku, dans la partie nord de l'île de Honshu, l'île principale du Japon, sur laquelle se trouve aussi Tokyo. Hein, Tokyo, c'est à peu près au milieu. Hiroshima, tout au sud, et donc Tohoku, la région du nord. Et Sophie Audard nous raconte comment vivent celles et ceux qui sont restés après la grande catastrophe, puisque c'est souvent ainsi que l'on désigne au Japon la triple catastrophe du tremblement de terre, suivi du tsunami et de l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. La première centrale nucléaire construite à Fukushima et exploitée par la société TEPCO. Centrale tristement célèbre donc depuis le terrible accident nucléaire de mars 2011 à Fukushima, donc dans la région de Tohoku. Alors après cette catastrophe, la zone autour de la centrale, la zone la plus proche, a été vidée de ses habitants et c'est encore aujourd'hui une zone interdite car on considère que la radioactivité est encore trop présente. Mais de l'autre côté de cette zone, juste à côté là, 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres, qu'en est-il ? Comment vivent les hommes et les femmes dans cette zone où, on s'en doute, la radioactivité n'a pas disparu ? À travers ce que vivent ceux que l'on appelle les Ubakusha, Sophie Audard raconte le nucléaire, la radioactivité, les vies à la fois bouleversées évidemment, mais qui continuent presque comme avant, enfin pas tout à fait quand même. Sophie Audard raconte la vie partout, alors qu'on a cet imaginaire des zones irradiées qui seraient des zones mortes. Pas du tout. À travers ce territoire en pulsation plein de vie, on comprend mieux ce qu'est la radioactivité, ce qu'on en sait, ce qu'on ignore, ce que ça implique pour ceux qui sont restés et qui vivent avec. Du poil sous les bras avec Sophie Audard, et bien c'est parti.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Alors essayons de comprendre quelle est cette petite question qui a titillé l'anthropologue, une question que ni vous ni moi ne nous étions posée probablement.
Disons que j'ai essayé de rendre petite une question qui vient après une énorme catastrophe. Voilà. Ce qui arrive, c'est donc 11 mars 2011, il y a un séisme qui génère un tsunami sur les côtes du nord-est du Japon. Et tout ça, ensemble, une suite de circonstances et une histoire très longue font que une centrale nucléaire, enfin deux centrales, mais notamment une, Fukushima Daiichi, Fukushima numéro 1, est accidentée, explose et il y a une contamination nucléaire importante. Donc c'est une grosse catastrophe. Et effectivement, moi je travaillais déjà sur le Japon quand c'est arrivé, donc ça faisait des années que je me rendais au Japon, voilà, très régulièrement, avec des projets de recherche qui m'ont emmené dans des milieux assez différents. Ce qui se passe pour moi après cette catastrophe, c'est de la décontenance. Je suis décontenancée. Je ne sais pas comment aborder ça. Je me suis, moi, à titre personnel, jamais vraiment posé des questions relatives au nucléaire. Et la première question que je me pose, qui est donc, qu'on pourrait dire, cette petite question, c'est comment les gens font pour respirer ? Alors c'est à la fois une grosse et une petite question. C'est pas la grosse question, c'est pas que penser du nucléaire ou quel avenir pour le Japon ou voilà, c'est pas des grosses questions comme ça. Que font les gens pour respirer ? C'était de me dire vraiment presque à l'échelle de, c'est l'échelle à laquelle moi je me situe, j'aurais pu me poser cette question-là si j'avais vécu à ce moment-là dans ce pays-là, dans cet endroit-là de ce pays-là. Et il arrive ça, et d'un coup, il y a une perte d'assurance totale de la composition de l'air, de l'environnement, pour le dire plus trivialement, mais de quoi est fait l'air qu'on respire. Et vraiment, je me suis demandé comment les gens faisaient avec ça. C'est pas une pollution qui se sent, c'est pas une pollution qui se voit, c'est pas une pollution qui se touche. Et dans beaucoup des endroits où ça s'est produit, c'est une contamination, ce qu'on appelle à faible dose de radioactivité. Donc il y a eu des mouvements de population très, très importants, mais il y a eu des tas d'autres endroits où les gens n'ont pas été déplacés et sont restés vivre là. Et je me suis demandé comment ils faisaient. Voilà. Comment ils faisaient pour accomplir de continuer à accomplir cette chose qui relève de la physiologie la plus élémentaire, On ne peut pas ne pas respirer si on veut être vivant et on n'a pas de prise. Enfin, il y a assez peu de moments dans la vie, dans l'existence, dans une journée même, où on conscientise le fait de respirer. Et je me suis demandé comment il respirait.
Respirer quand l'air est radioactif. That is a putain de question. Dans ces zones léopards, comme on les appelle, parce que tachetées de radioactivité, dans ces zones, peut-on rester vivre? Est-ce que la radioactivité évolue ou stagne, vole ou nage dans ces zones? Je cite, se fracture le concept de rationalité. On est comme dans un nouveau monde, un monde parallèle. La question de la respiration donne le vertige. Sait-on si la radioactivité, ça monte dans l'air ou ça descend, ça s'incruste dans la terre? Est-ce que ça rentre dans la peau? C'est comment? Invisible, inodore, intouchable, nous dit Sophie Houdard. Mais alors, comment on fait? La respiration, c'est loin, très loin d'être une petite question.
C'est là que ça m'a attrapée tout de suite. Et après, la traduction de cette question-là pour en faire un projet de recherche, ça a été de dire que j'allais faire un terrain, une enquête sur les mesures de l'air au Japon. Donc d'abord, j'ai pris l'air parce que ma question de base, c'était la respiration. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on mesure? D'emblée, ce qui est venu tout de suite après la catastrophe, c'est l'idée que la plupart des situations de l'existence quotidienne allaient être médiées par des instruments de mesure à partir de ce moment-là. Je me suis dit, je retourne au Japon et je vais aller voir comment on mesure, avec quel instrument, d'où viennent les instruments, etc. Comment on fait une carte? Comment on sait comment ça se déplace, etc. Et donc les premiers temps de l'enquête, c'est ça, c'est d'aller voir un peu tous les endroits dans ce nord-est du Japon, le Tohoku, la région du Tohoku, les endroits où on mesure, les institutions où on mesure, de m'intéresser aux instruments de mesure eux-mêmes, d'essayer d'en retracer l'histoire éventuellement, et de voir quels sont les usages que font les gens de ces instruments de mesure. Comment ça entre dans le terreau. Voilà. Donc ça, c'est la première descente, enfin, c'est le premier vertige d'une certaine façon. C'est comme tu le dis très bien, et donc j'ai essayé de faire en sorte qu'en lisant le livre, on se figure le vertige pour les gens eux-mêmes, de se dire tout va être mesuré. Et c'est pas des échantillons qu'on mesure. Donc on mesure tous les sacs de riz qui viennent de toutes les rizières, par exemple, pendant des années. Ça change la manière de travailler parce qu'il faut mettre le riz dans les sacs, ensuite les mettre dans le camion, ensuite les porter à la coopérative agricole où il y a un point de mesure, et ensuite etc., etc. Voilà. Et donc, pendant les premières années, effectivement, les gens vont se mettre au travail, accompagnés par des agronomes, des experts en radioactivité, etc., des scientifiques qui viennent souvent, la plupart du temps, bénévolement, en fait, dans la région pour commencer à faire des choses et à pouvoir savoir effectivement les endroits où on peut marcher, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut boire, comment on peut se déplacer, enfin voilà quoi, de répondre à ces questions qui sont des questions vitales et en même temps que très quotidiennes quoi. Les gens vont mesurer beaucoup, vont s'équiper aussi. Alors d'abord, il y a des instruments de mesure qui sont installés par le gouvernement, des grandes stations de monitoring qui vont être installées dans des endroits stratégiques, des instruments de très haute précision qui vont donner des chiffres. Voilà, on passe devant, on voit un chiffre qui s'affiche quotidiennement. Le chiffre change quotidiennement parce que ce que vont comprendre aussi très vite les gens, c'est que ces mesures-là, elles varient avec le temps, avec le climat, avec la saison, donc voilà, avec une série de choses. Voilà. Ça va bouger pendant très longtemps. Voilà. Et puis, la deuxième catégorie, enfin il y en aurait plein d'autres, mais la deuxième catégorie, disons, de mesures qui sautent aux yeux quand on arrive pendant les premières années, c'est les gens s'équipent à titre individuel, sont équipés dans certains endroits, s'équipent à titre individuel de compteurs GGR. Et donc, ce sont des petits instruments qui tiennent dans la main et qui vont accompagner les gens dans leurs déplacements. Voilà. Et après, il se trouve que très vite, les gens vont comprendre que Alors déjà, on devient quand même un peu dingue à être dans ce rapport à sa vie quotidienne et son environnement systématiquement mesuré. Voilà. Qu'un compteur Gégère, quand on l'a dans la main, quand on l'a dans la voiture, etc., les chiffres n'arrêtent pas de monter, descendre, etc. Qu'un compteur Gégère, ça calcule aussi la radioactivité naturelle. Donc il ne fait pas de distinction a priori entre radioactivité naturelle et artificielle. Donc on a dans la mesure le bruit de fond aussi. Pour les gens, c'est déjà une pensée nouvelle. Hein. En fait, on n'a pas forcément tous conscience qu'on vit dans un bain radiologique qui n'est pas le même à tous les endroits de la planète non plus. Donc, et voilà, est-ce que je vais voir à mesure des années où je vais me rendre sur place et finalement m'installer toujours au même endroit, c'est que les gens vont lâcher, en tout cas les compteurs Gégère, c'est-à-dire ces instruments au plus proche des corps, en fait, hein, des individus en tant que personnes, parce qu'ils ont compris que mesurer n'allait pas faire taire toutes les incertitudes. Voilà.
Vivre après un accident nucléaire, c'est vivre au rythme des chiffres, des formules mathématiques, des probabilités qui suivent des modèles de dispersion de polluants qui varient et en deviennent des hypothèses arbitraires ou aléatoires. C'est vivre au rythme des campagnes de revitalisation, de reconstruction, de renaissance, ou quel que soit le nom que le gouvernement donne à ces différentes phases de vie. C'est vivre, en tout cas, en suivant les chemins sinueux de la radioactivité qui avance sur Terre plus vite que la science, manifestement. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne sait presque rien. Au final, on a l'impression d'être dans un grand flou.
C'est très vrai. Alors là, il y a eu beaucoup de critiques dans les années qui ont suivi la catastrophe, parce que si on regarde par exemple les opérations de zonage, et les opérations de zonage, c'est hyper important parce que des opérations de zonage sont dépendantes, voilà, les indemnisations qu'on va toucher en fonction de la zone dans laquelle on se retrouve. Et donc toute la question des seuils, la question des mesures, c'est-à-dire à partir de quel moment, de quel chiffre on va décider qu'on est dans la zone 1 plutôt que dans la zone 2 ou dans la zone 3, bah tout ça, il y a énormément de conséquences qui vont découler de ces choix-là. Et les discussions vont être incessantes pendant les premières années et torturer beaucoup les gens. Le zonage, c'est une frontière. Donc il y a un moment, il faut faire passer la frontière quelque part. Et donc la frontière, elle peut passer, par exemple, au milieu d'un village. Et donc si on est d'un côté, il faut bien qu'elle tombe quelque part. Et donc si on est d'un côté de la rue ou de l'autre, on est évacué ou pas. Et donc là, ça prend effectivement un tour cauchemardesque, en fait, pour les gens, parce que tout le monde a bien conscience que c'est pas un fil, c'est pas... Là, j'ai un ami japonais qui est photographe et aussi anthropologue et qui avait fait un très beau projet avec des tas de gens qu'il a emmené dans la région de Fukushima. Et l'idée était d'avoir un fil très long. Et il y avait deux personnes qui tenaient le fil, et simplement de filmer ce moment-là, voilà, deux personnes qui tiennent un fil très long, qui était sur ce fameux zonage, cette fameuse, on le voit sur une carte, hein, c'est un trait sur une carte, voilà. Donc eux se sont mis sur les traits, et on voit les fils qui bougent avec le vent, enfin on voit qu'il y avait une portée évidemment poétique, aussi politique, dans ce geste très simple, cette installation en fait hyper simple qui consistait à montrer comment c'était, ça relevait de l'impossible, ça relevait du fantasme en fait, et ça relevait aussi d'une imposition politique violente sur les corps, quoi, parce que on détermine, voilà. Et donc il y a eu énormément de critiques formulées et beaucoup d'études aussi sur ces questions de zonage, sur ces questions de mesures, sur ces questions de relever les seuils, parce que si tu as des seuils trop bas, un très grand nombre de la population est concerné par des subventions, par des indemnisations, etc. Et donc ça on l'avait déjà vu, c'est des choses qui sont des espèces d'ajustements cyniques en fait. Qui ont lieu dans chacune des catastrophes de ce type-là. Après, c'est pour ça que pour moi, ça a compté de changer un peu d'échelle, de pas trop m'embarquer sur ces questions-là qui ont été étudiées aussi par d'autres gens, et de m'installer dans un endroit. Voilà, je fais la connaissance de ces gens-là qui habitent à Towa, qui est à une cinquantaine de kilomètres de la centrale de Fukushima d'Haïti, et qui donc sont en dehors de la zone d'évacuation, concernée par l'évacuation. Et donc, ils sont restés vivre là, en fait. Et de fait, il y a des personnes qui partent tout de suite après la catastrophe, qui s'éloignent et qui reviennent au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, au bout d'un mois. En fait, personne n'a quitté cet endroit-là. Voilà. Et donc, les gens se posent cette question du vivre avec dont tu parlais. Ils disent, bon, ben voilà, nous, on reste là. Et par ailleurs, ils ont eu des aides, notamment pour la relance agricole, mais pas d'indemnisation. Voilà, on ne leur a pas construit de serre, on leur a pas. Donc il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. Et pour eux, ces questions-là de zonage, etc., d'un coup, ils vont vraiment faire descendre l'échelle des questions. Parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est ce champ-là, ce bois-là, cette situation familiale-là, etc. Et donc, ils comprennent assez vite que, en fait, de toute façon, ils n'ont plus confiance dans le gouvernement. Et donc, il va falloir qu'ils apprennent par eux-mêmes à faire les choses et à prendre des décisions par eux-mêmes. Et donc, ils vont s'équiper, ils vont s'entourer, ils vont lire et ils vont observer eux-mêmes, faire des expériences par eux-mêmes et tirer leurs propres conclusions. Et donc, les conclusions qu'ils tirent de tout ça sont des conclusions locales. Et Monsieur Ono il me dit, moi, ce qui m'intéresse, je vais pas servir de modèle. Ce qui m'intéresse, c'est là. Là, maintenant, aujourd'hui, voilà, à l'échelle de ma communauté. C'est pas à l'échelle de sa propre petite gueule, c'est à l'échelle de ma communauté. Voilà, c'est à Towa, pour les gens de Towa, etc. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place à partir de là, qui font comprendre que la mesure, effectivement, pour eux-mêmes, ça va vraiment pas suffire. Il va falloir de l'entraide, il va falloir de l'intelligence des situations, il va falloir beaucoup, beaucoup d'autres qualités, beaucoup d'autres outils aussi, dont des outils relationnels, en fait. C'est ça qui va me passionner, moi, quand je fais leur connaissance, en décidant de passer du temps, année après année, avec eux, quoi.
Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima, tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima. Je ne comprends pas. Essayer de mélanger les mauvaises herbes. Les blessures sont des marques qui prouvent qu'on s'est toujours démené. Qu'on avait tout fait pour ne plus jamais être blessé. Alors qu'ils nous laissent nous détruire au nom de nos désirs. Alors qu'ils nous laissent choisir de couler nos navires. Même si ça nous fait souffrir, on finira martyr. Si l'amour s'intensifie, on paye. Petite bombe à moi.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Apprendre à vivre avec, parce qu'on ne vivra plus jamais sans. Mais alors, vivre avec quoi d'autre ? L'anxiété, la peur, le doute ? Intégrer la radioactivité dans sa respiration, dans l'eau qu'on boit, dans la tomate qu'on croque, c'est inévitable, puisque c'est la réalité dans cette zone grise. Mais c'est une réalité flippante, parce qu'on ignore ce que ça va vraiment produire, ce que ça va faire à nos corps. Alors le premier risque, c'est de vivre dans ce doute, dans cette incertitude, et d'être rongé par cela.
Les gens comme monsieur et madame Ono, ils se disent victimes de ce qu'on a appelé les rumeurs néfastes. C'est en fait un outil politique pour décrédibiliser les gens qui ont peur. C'est, voilà, y a une très longue histoire de ce qu'on appelait la radiophobie. Donc le fait de tomber malade quand on est dans une situation comme ça, avec un lâchage de radioactivité. La radiophobie, c'est ce terme qui est inventé à partir des années, fin des années 50, dans les années 60. Enfin, il y a déjà des tas de théories avant que le mot ne soit lancé, suivant lequel on tombe malade du fait de la peur et non pas du fait de la contamination. Et donc les gens disent il faut pas avoir peur. Il y a plusieurs théories là, plusieurs écoles, entre le, puis voilà, il y a eu Tchernobyl avant. Alors il y a les gens qui disent pour ne pas avoir peur, il faut savoir, il faut connaître. On va vulgariser, autrement dit, on va leur expliquer bien simplement comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que la radioactivité. On va leur expliquer comment utiliser les outils. Et quand on sait, on n'a pas peur. Pour d'autres personnes,